cours de philosophie de l'activité artistique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 9 juin 1989.
On va continuer de réfléchir sur le travail. Travailler sur le travail. Un travail intellectuel. Alors au terme, j'espère que vous pourrez mettre en note la modalité particulière du travail intellectuel. Votre expérience. Ce serait très intéressant à la fin de la première année de philosophie. Qu'est-ce que c'est que le travail philosophique ? Que représente le travail intellectuel, à la différence du travail manuel. Puisque le travail manuel est évidemment bien plus visible. Pendant la guerre, les intellectuels n'avaient pas de carte de travail. Quand un chien est assuré et qu'il mord un manœuvre, on lui paie le temps qu'il perd. L'intellectuel, non, c'est une expérience. Donc, on ne lui fait pas le temps qu'il perd. Le travail demande d'être efficace. Une des grandes épreuves, du moins dans le temps, maintenant ça a changé, dans le service militaire, c'était souvent d'avoir l'impression de faire un travail inefficace. Et une des preuves du noviciat, quand c'était des pères, maîtres, extraordinaires, n'est-ce pas, c'était de demander des choses complètement inefficaces. De balayer un escalier en commençant par le bas. Très éprouvant pour l'intelligence pratique. Travail inefficace. Vous voyez, perdre du temps pour le Seigneur. Mais perdre du temps, non pas comme l'oraison, parce que ça va. Parce que, mais perdre du temps en prenant une méthode idiote. Et ça peut arriver, ça. Alors vous commencez à comprendre là ce que c'est qu'une méthode. Une méthode permet un travail plus efficace. Méthodologie historique. N'est-ce pas ? Le terme donné au noviciat, pas au noviciat, je veux dire, première année de philosophie, nous faisait un petit cours de méthodologie historique. Ça manque ici. Mais il a rédigé un papier très très bien fait là-dessus. Méthodologie historique. Alors on en a vu, je crois, un paragraphe. Parce que il commençait, puis au bout de 2 minutes, il commençait à raconter des histoires. Il enlevait ses lunettes et racontait des histoires. J'ai retenu les histoires, et je n'ai rien retenu à la méthodologie historique. Mais je sais où ça se trouve. De sorte que si je devais faire un travail historique, je serais capable de cette méthodologie historique. C'est très important, une méthode. Méthode pour allumer un calorifère. Une méthode. Et si vous ne suivez pas la méthode, vous risquez de faire sauter la machine. Méthode pour allumer un four à gaz. Et ainsi de suite. Un professeur de Fribourg commençait son année, ça m'a été répété, en disant, avant, les Grecs parlaient d'un objet qui spécifiait l'intelligence. Aujourd'hui, nous parlons de méthode. C'est tout dire. Et c'est important. Le travail demande d'être méthodique. Vous voyez, de temps en temps, c'est ce qui manque dans la vie religieuse. Le travail n'est pas toujours assez méthodique. Et un directoire, quand on est sacristain, et qu'on passe le tablier à un suivant, on lui dit ce qu'il faut faire. Non, il y a toujours des choses qui manquent. Non. Un directoire, c'est ça, méthodologie. comme l'ordination, on dit tout ce qu'il faut faire. Le travail liturgique, c'est un travail, le liturge. C'est un travail. Les chantres, c'est un travail. Et ainsi de suite. Donc la méthode. Et plus on a un instrument perfectionné, plus la méthode est importante. Voyez, les pilotes des mirages. On a rencontré un tout jeune il y a quelques années. Je ne sais pas si changerait beaucoup maintenant. Mais c'était assez impressionnant. Il était sorti troisième de Polytechnique. Il avait choisi l'aviation. Et il racontait son expérience. Qu'est-ce que c'était que cet instrument et la méthode qu'il fallait pour... Et comme il fallait être attentif à ne rien oublier. Parce que ça pouvait être très dangereux. Vous voyez, c'est vrai que plus l'instrument est perfectionné, plus la méthode devient indispensable et d'une extraordinaire précision. Voyez ceux qui sont les conducteurs de TGV. J'ai eu le privilège une fois d'être reçu à Paris comme ça et d'avoir été dans la cabine du conducteur de TGV de Paris à Mouchana. C'est intéressant d'entendre quelqu'un qui avait conduit d'autres trains avant. C'est quand même du travail, mais un travail très particulier, mais la méthode devient très importante. Vous voyez ? Et quelquefois, le travail, quand les outils sont particulièrement perfectionnés, consiste uniquement à observer une méthode. C'est un peu ennuyeux pour le travail. J'aime bien travailler où il y a un peu de biceps. Ça vaut mieux. J'ai l'impression que on est plus dedans. J'ai toujours un peu peur, un travail dans lequel on est surveillant. On est surveillant d'une machine. Attention, droite à gauche. Et puis surtout, on fait grande attention que celui qui est le surveillant ne s'endort pas. Et si jamais il s'endormait, immédiatement, il y aurait une sirène qui, pour le réveiller, on est. Donc, il y aurait quelque chose qui le réveillerait immédiatement. C'est curieux, hein. Vous voyez, alors, si vous voulez travailler le travail, prenez le travail artisanal jusqu'au surveillant. Pas un surveillant de gosse, parce que ça encore c'est assez amusant. Oui, c'est une expérience qu'il faut faire dans sa vie, de surveiller des enfants. Du haut de la chair, comme ça, on a envie de les regarder, puis on voit tout. Et ceux qui sont surveillés ne voient pas du tout qu'on voit tout. Comme quand on prêche, voyez, on voit tout. Et alors on voit les gens qui regardent leur montre. Au bout de 3 minutes, et quand vous voyez quelqu'un qui regarde sa montre, vous vous arrêtez en la regardant. Et vous dites, ah, oui, je sais, il est telle heure. Il y a 3 minutes qu'on prêche. J'ai vu ça une fois, mais les gens font... Dans certains lieux, il faut le faire. Il faut éduquer les gens quand même. C'est pas très poli, tu vois. Regardez, vous voyez ça dans le salon, 3 minutes. Il y a 3 minutes qu'on est là. Là, j'ai demandé, combien de temps pouvez-vous écouter sans regarder votre montre? Il n'y a pas eu de réponse, évidemment. Et tout le monde a entendu. Mais c'est curieux, le travail. Parce qu'il y a le travail du prédicateur. Prêcher, c'est un travail. Ça, c'est vrai. Faire un cours, c'est un travail. Artisanal, c'est sûr. Évidemment, la matière est très très noble, puisqu'on travaille sur des intelligences ou sur un cœur à évangéliser. Donc, on a cette expérience de travail constante. Et le travail implique un élément sérieux. C'est curieux. Tout travailleur est sérieux. C'est pour ça que vous ne tolérez pas le dilettant. Excellente expérience. Vous ne tolérez pas. Et le dilettante, celui qui regarde sa montre toutes les 3 minutes, vous voyez. Il n'avait pas regardé la première fois, c'est la troisième fois qu'il a regardé. J'avais été patient. troisième fois. Il ne faut jamais sur le premier acte. Parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est un petit geste instinctif qui n'a pas d'importance. Mais quand c'est répété trois fois à une minute de distance, alors c'est un petit peu exagéré. Prenez aussi. Ça prouve que la minute était très longue. Au point de vue durée. Alors, le travail implique un sérieux, c'est curieux. Et le saint permet, dans son encyclique, une ardeur. J'aime bien ça. Ce sérieux et cette ardeur, je crois que c'est l'application. Le travail demande, voyez, demande un aspect subjectif d'être appliqué. On ne peut pas travailler n'étant pas appliqué. Un dilettante qui n'est pas appliqué ne travaille pas. Il joue. Alors, ce serait la différence entre le jeu et le travail. N'oubliez pas, hein, parce qu'il y a des choses très parallèles. Je crois que quand on étudie le travail, il faut regarder le jeu. Il y a une grande différence entre les deux. Mais alors, il y a des jeux qui, en raison de la compétition, comme on dit aujourd'hui, deviennent aussi très sérieux. Vous voyez, des sportifs. Sont aussi très sérieux. Quand vous regardez le Tour de France, c'est très sérieux. Quand vous regardez les skieurs, c'est très sérieux. Quand vous regardez des football, quand c'est ici, c'est pas sérieux, mais quand c'est à Paris-Monial, c'est très sérieux. Bien que ça ne se trompe pas, c'est très sérieux. Ça devient très sérieux. On porte tout de suite une casquette. École Saint-Jean, mais ne tenez pas Paris-Monial. Mais alors on est pris par quelque chose de très particulier, un autre sentiment. On est responsable de montrer qu'on peut être des intellectuels et quand même de ne pas être bête pour le football. L'intelligence spéculative permet de descendre jusqu'à nos doigts de pied et avoir une stratégie particulière au point de vue attaque. Et quand ça ne dure qu'un quart d'heure, on dit non, ça ne vaut pas la peine. Ça doit durer plus longtemps. Parce que notre stratégie dure une demi-heure. Tandis que stratégie rapide, ça ne va pas. Mais alors, ça devient compétitif. Un jeu où il y a justement cette rivalité n'est que pur jeu de détente. C'est pas la même chose du tout. C'est pas du travail. Faire une demi-heure de marche par jour, c'est pas du travail. Sauf que si vous le faites pour vous entraîner à devenir un grand sportif, n'est-ce pas, de la marche. Alors à ce moment-là, vous prenez des exercices et on vous dit comment il faut le faire. Autrement, vous vous détendez. Il faut voir ce que c'est, quelle différence y a-t-il entre le travail et le jeu. Je crois que le travail implique une efficacité. Vous voyez, le travail implique du côté de celui qui travaille une attention, un sérieux qui tend un peu. Et puis l'ardeur. Ce serait intéressant, hein, d'étudier le sérieux du travailleur et l'ardeur du travailleur. Est-ce que le sérieux du travailleur et l'ardeur, est-ce des qualités morales ou des qualités du fait géré? Il y a le sérieux de l'homme vertueux et il y a le sérieux du travailleur. Est-ce que c'est le même sérieux? Je ne traite pas cette question-là, mais je vous le demande à vous, parce que c'est intéressant. Parce que c'est un des problèmes très actuels, le travail. Ça, quand vous serez devant des chefs d'entreprise ou des ouvriers, il faut leur parler du travail. Et montrer que l'Église s'intéresse à ça. Donc, il y a le sérieux, il y a l'ardeur. Le Saint-Père dit qu'il faudrait une vertu morale particulière pour l'ardeur dans le travail, dans son encyclique. Je crois que le sérieux du travailleur et l'ardeur, c'est l'application au travail qui est l'intervention du point de vue moral dans le fait géré. Et je crois que l'application, c'est quelque chose qui est d'ordre moral. Et autre chose est la générosité, autre chose est l'application. Être appliqué à ce qu'on fait. Et pour être appliqué à ce qu'on fait, ça implique que nous soyons maîtres de nos diverses facultés pour ne pas nous laisser distraire. Regardez, un enfant est incapable de s'appliquer très longtemps. Il faut apprendre à être appliqué. Ça s'apprend. Et c'est d'ordre moral. Un moine est appliqué. Vous voyez, un moine dilettante, c'est celui qui a l'office, toutes les 3 minutes, regarde s'il y a des personnes étrangères. Un moine appliqué, il met son capuce. Et puis, il fait attention qu'à son chant, qu'au psaume. Il est tout attentif à ça. Un moine dilettante, c'est très déplaisant. Très déplaisant. Mais quoi? C'est juste l'inverse. Réciter des psaumes en dilettante, non, ça va pas. Vous voyez, l'attention, c'est notre morale. Parce que c'est vrai, la liturgie, c'est un travail. C'est un certain travail. Et donc, ça implique cette application. Et ça implique un certain sérieux. Vous voyez, un moine qui, tout en récitant les psaumes, rirait toujours. On dirait, mais il rit à qui? Il rit aux anges. Mais, parce que les anges chantent en même temps que lui. Ou qu'il pleurait tout le temps, si vous voulez. Parce que rire et pleurer, c'est les deux contraires. Non, on lui demande un sérieux d'application. À ce qu'il fait. Il est très attentif à ce qu'il fait. Être capable de ça. Ça s'apprend. Vous voyez? L'application. Et c'est moral, mais en même temps, c'est curieux. C'est pas uniquement moral. Il peut y avoir des gens très appliqués dans leur travail, artisanal, intellectuel, liturgique, et qui ne sont pas appliqués au point de vue moral. Curieux. Alors y a-t-il deux vertus différentes? Bon, ça n'a pas été très travaillé, ça. N'oubliez jamais qu'au plan psychologique, le fatuité est beaucoup plus proche du psychologique que le moral. C'est pour ça qu'on peut parler d'une psychologie sans péché, d'une morale psychologique sans péché. Il y a des erreurs au point de vue du fatuité. Il n'y a pas de péché du côté du fatuité. Il y a des erreurs, des manques d'application. Il y a des accidents. Un accident de route, il provient de quoi? C'est que vous n'êtes pas sérieux à la conduite. Vous bavardez. Et les vieilles choses anciennes, on ne parle pas au conducteur. On ne doit pas le distraire. Pour maintenir ce sérieux, alors posez-vous la question, est-ce que l'application au niveau travail, qui implique ce sérieux, qui implique cette ardeur, implique-t-il une vertu particulière pour le travailleur? Ou est-ce que c'est des vertus morales? Pas si commode que ça à répondre. C'est toujours pour mieux comprendre le fait de gérer la durée. Ce qui est sûr, c'est que le travail implique l'efficacité. On travaille pour réaliser une œuvre. Tandis que l'aspect moral n'implique pas d'efficacité. C'est pour ça qu'il faut tout le temps qu'à côté du point de vue moral, il y ait un travail efficace. Mais voyez, l'efficacité du travail intellectuel, comme c'est difficile à mesurer, on le mesure aux examens. On met une note pour mesurer l'efficacité. Et comme son examen dans la vie religieuse, on ne dit pas la note, aux étudiants pour que ce soit des examens dans la vie religieuse. C'est très astucieux, c'est très pensé, c'est tout ça. C'est pas du tout laissé au hasard. La première année, on donnait les notes. On a vu que ça distrayait. Ça empêchait de faire des examens comme dans la vie religieuse. Alors, pas de notes. Uniquement une note pour un contrôle éventuel de Monseigneur. Parce que Monseigneur peut venir contrôler. Est-ce que vraiment les examens se font sérieusement? Si on ne met pas de notes, c'est pas sérieux. C'est les notes qui mettent le sérieux. Oui, c'est sûr. Parce que là, on voit très bien qu'on a quand même examiné, qu'on a posé des questions. Mais les examens dans la vie religieuse se passent autrement que dans la vie séculière, c'est évident. C'est un contrôle parce qu'on doit en faire. Autrement, strictement, il n'y aurait pas d'examen. Nos sœurs contemplatives ne passent pas d'examen. Et je suis partisan qu'elles n'en passent pas. Parce qu'elles n'ont pas à préparer au sacerdoce. Ou éventuellement, n'est-ce pas ? On ne sait pas qui parmi vous sera présenté au sacerdoce. Donc, et pour le sacerdoce, l'Église demande des examens. Et si vous ne vous préparez pas au sacerdoce, peut-être que ce sera bon de pouvoir dire qu'on a tant d'années de cours on a assisté pour pouvoir enseigner vers la catéchèse un certain contrôle. Mais c'est très curieux, hein, les examens c'est un contrôle pour le travail intellectuel. Parce que l'efficacité d'un travail intellectuel c'est très difficile à évaluer. Très très difficile. Dans un travail intellectuel scientifique, oui. Dans un travail intellectuel historique, oui, mais spéculatif. Spéculatif. Quelquefois, en une phrase, vous comprenez tout, et vous avez toute une journée, vous n'avez rien compris du tout. Vous avez une fausse piste. Le travail manuel est un travail efficace en vue d'une œuvre. Alors, c'est à partir du travail qu'on doit comprendre ce que c'est que l'efficacité. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? On en parle tout le temps. Philosophiquement, qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Le travail demande d'être efficace. C'est donc à partir du travail que vous allez comprendre ce que c'est que l'efficacité. Vous voyez, efficacité, fécondité. Deux aspects qu'on doit bien comprendre. Fécondité et l'efficacité. Vous voyez, quand l'Église condamne la fécondation in vitro pour la procréation humaine, quand l'Église dit non, pourquoi l'Église dit-elle ça? N'y a-t-il pas eu là confusion entre fécondité et efficacité? Il y a des parents qui veulent à tout prix avoir un enfant. Pour eux, c'est la chose essentielle. Des parents très chrétiens, quelquefois, qui mettent le but du mariage, l'enfant, en premier lieu. Et l'Église dit non. C'est l'amour des conjoints. Il y a peut-être 150 ans ou 200 ans, l'Église n'aurait peut-être pas eu la même attention à ce que représente l'amour des conjoints. Il y a des fuites, je le sens bien. voix. Ah oh venez, venez, venez. Voyez, il y a la méthode, madame. Vous allez tout de suite comprendre. Ah, tiens. C'est rafistolé. Vous allez entendre maintenant. Et là-bas, vous entendez. Très, très bien. Alors, c'est l'efficacité, vous voyez. C'est pour vous donner une expérience directe de l'efficacité. Et c'est la technique qui permet l'efficacité, vous voyez. C'est curieux, hein. C'est la même voix qui porte ou qui ne porte pas, grâce à l'efficacité, grâce à la technique, grâce à l'outil. Et tout est là. L'outil intensifie l'efficacité. Et uniquement l'efficacité. Pas la fécondité. Ah. Vous voyez, quand vous lisez l'instruction du cardinal Ratzinger, si vous voulez la comprendre et la faire comprendre, c'est votre devoir de théologien. Pour faire comprendre à des gens très intelligents, au point de vue scientifique, qui n'y comprennent rien. Et ça, vous verrez ça tout le temps. Et on vous demandera une explication. Ça m'a beaucoup frappé, moi. Vous voyez ? Et je vous affirme que quand on leur donne une explication philosophique qui se tient, ils sont très attentifs. Très attentifs. Et des gens auxquels on ne croirait pas du tout. Je ne nomme pas ici des personnes, parce que ce n'est pas la peine, mais je l'ai vu plusieurs fois. Des personnes intelligentes dans leur métier. Et dans leur métier d'artiste. Qui trouve alors l'instruction de Ratzinger complètement stupide, complètement anachronique. Parce que c'est ça le reproche. Mais c'est anachronique. L'Église n'évolue pas avec la science. Qui va vouloir dire non. L'Église n'évolue pas avec la science. Mais ils sont tellement habitués à ça. Parce que pour eux, le point de vue de l'efficacité, le point de vue de la communication, donc l'efficacité, parce que la communication, c'est l'efficacité, est primordiale. C'est la chose première. Alors on a dit, mais non. L'Église est gardienne de l'amour. C'est une mère. Elle est gardienne de l'amour humain. Et elle voit que tout, aujourd'hui, lutte contre cet amour humain. Et l'Église devient farouche, comme une tigresse, quand elle voit que, de fait, certains progrès, certaines applications de ce progrès risquent de tuer l'amour. Alors, là, ils commencent à être attentifs. Ils regrettent que l'Église ne s'occupe pas plus de la science. Ça, c'est vrai. Ils regrettent ça, que l'Église ne s'occupe pas plus de la technique. On leur dit, mais écoutez, l'Église est parfaite premièrement pour ça. Jésus n'est pas venu premièrement pour aider la technique, aider la science. C'était ce petit dialogue au début du concile qui m'a été rapporté directement par le professeur Marois, qui était grand ami de Paul VI. Et Paul VI l'avait invité au concile, même avant qu'il soit pape. Il était le seul savant au concile. Le seul. Alors quand il a rencontré le révérendissime père général de la Compagnie de Jésus, le père Arroupé, lui a dit, oh, vous savez, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, puisqu'il est celui qui a fondé l'Institut de la vie pour réunir les savants, traiter des problèmes les plus brûlants. Parce que la compagnie s'est toujours beaucoup intéressée au progrès de la science et à la science. Alors Marois l'a regardé et dit: oui, je sais, mais aujourd'hui, très révérendissime père, il y a assez de savants dans le monde. On n'a plus besoin de la compagnie. Il y a assez de savants. Mais ce qu'il manque, c'est de vrais philosophes et de vrais théologiens. Et il manque de vrais saints. Alors, Arouper dit: ah, vous croyez? C'était beau comme dialogue, hein? Ils me le disent aussi après. Mais ils voient très bien, on voit très très bien ça. C'était cet excellent père jésuite, polytechnicien, qui parlait à un autre polytechnicien. Ça pourrait arriver aussi chez les Dominicains et partout. Alors, ce polytechnicien jésuite, je crois provincial, dit à son camarade polytechnicien, en parlant de son neveu: ah oui, oui, oh, que le vous, il a attrapé le virus. Ah, il est entré dans la compagnie. Ah, pas du tout. Mais non, il est entré à l'X. C'est très intéressant de voir ça. Il faut saisir ces choses-là, parce que ça en dit beaucoup plus long que tout le reste. Mais ça montre la sécularisation. C'est ça, ça montre la sécularisation. C'est que l'efficacité passe avant l'amour. Et l'Église est là pour rappeler que l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. L'amour n'est pas mesuré par l'efficacité. Le travail est mesuré par l'efficacité. Pas entièrement, hein. Mais je comprends qu'on puisse donner une certaine mesure au travail par l'efficacité. Pas entièrement. Ça sera un problème très important à voir, du point de vue philosophique. Mais voyez, toute la question de l'instruction de Ratzinger, on aurait aimé qu'il mette un petit chapeau avant ça. Le monde d'aujourd'hui ne voit plus que l'efficacité. Et l'Église doit être là pour être la grande éducatrice de l'amour. Parce que l'Église est la grande éducatrice de l'amour. Et nous devons tous être des grands éducateurs et des grands pédagogues de l'amour. Tous. Dans le monde d'aujourd'hui. S'il y a Saint Jean Éducation, c'est pour ça. Et uniquement pour ça. C'est pas pour donner des méthodes pédagogiques plus efficaces, pour passer des bachots. Non. C'est pour sauvegarder dans le cœur de l'homme une capacité d'aimer. Et si vous êtes attentif à l'instruction de Ratzinger, vous voyez que tout est commandé par ça. C'est très très curieux. L'amour peut-il se servir d'instruments extrinsèques à l'amour? C'est quand même important, ça. L'efficacité se sert d'instruments, vous voyez bien. On en a eu la preuve. L'efficacité, le travail. Faire un cours, c'est un travail. Pour vous et pour moi. Alors on peut servir d'instrument, ça ne gêne pas. C'est peut-être gênant au début, il faut s'adapter un peu, mais au bout d'un certain temps, ça ne gêne plus. On peut s'adapter. Alors est-ce qu'on peut dire le même raisonnement? Mais ne vous inquiétez pas, c'est un peu gênant au début. Mais ne vous inquiétez pas, ça passe, on va s'adapter. C'est le raisonnement qu'ils disent. Je l'ai entendu de gens intelligents. Alors quand on leur dit: mais attention, vous savez pas ce que c'est que l'amour. Et vous raisonnez sur l'amour comme vous raisonnez sur le travail et l'efficacité. Donc vous raisonnez sur l'adgéré comme sur le fait de gérer, philosophiquement parlant. Donc c'est très important de comprendre ça. Vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, je crois que c'est un des problèmes les plus importants. Parce que on est dans un cercle infernal du primat de l'efficacité. Et tout est pour l'efficacité. Et on s'apercevra à un moment que c'est trop tard, qu'on tue l'homme. Je voyais récemment quelqu'un qui avait été voir un de nos chers hommes-là qui s'occupe dans la Bretagne du cheptel de la petite vache bretonne qui est en train de disparaître. Il n'y aura plus de petite vache bretonne. Vous pouvez vous inquiéter, il n'y aura plus de petite vache bretonne. À moins qu'on en garde une ici, en souvenir, et qu'on se dise on croit en l'efficacité de la vache bretonne. Ça disparaît complètement. On le sait, c'est calculé. Mais l'efficacité, parce que la vache bretonne, que voulez-vous, c'est pas rendable. Alors, elle disparaît. C'est très dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Montrer que la vache bretonne a droit de cité en Bretagne. Et tout est pour l'efficacité. La qualité disparaît. Elle disparaît complètement. Comme il n'y aura plus qu'une espèce de pomme, il n'y aura plus qu'une espèce de vache, il n'y aura plus qu'une espèce, pas de singe, parce que ceux-là, ils sont sauvages. Alors ils ont peur d'être civilisés et d'être sous la mesure de l'efficacité. Mais tout ce qui est tombera sous le domaine de l'efficacité pure. Alors, il faut bien comprendre, le travail demande d'être efficace. Ça, c'est très vrai. L'efficacité, qu'est-ce que c'est? L'efficacité, c'est une force. Si je prends l'efficacité humaine, du travail humain, capable de transformer un autre. Toujours un peu un aspect de violence dans l'efficacité. Ça aussi serait très intéressant à étudier. Le problème de la violence dans le travail. Il y a une violence condamnable, il y a une violence acceptable. Quelles sont les limites? Oui, on étudie toujours la violence du côté moral. Et je ne sais pas s'il ne faudrait pas l'étudier du côté de l'efficacité. Parce que moi, je crois que la violence est commandée par l'efficacité. Tous les exemples qu'on m'a donnés, point de vue militaire, pendant la guerre d'Algérie, je me suis beaucoup intéressé à ça là-bas. Tous les exemples qu'on m'a donnés, c'était toujours le critère d'efficacité. Une efficacité par rapport à la vie humaine. C'est quand même quelque chose d'important. Et on justifiait la violence par l'efficacité. Vous voyez donc, pas un problème moral. Un problème d'efficacité. Et je crois que quand on le place du côté moral, l'argument n'est pas fort. Il faut toujours voir ça. Alors, au point de vue philosophique, c'est très très important. Mais devant tous ces problèmes, qui sont des problèmes constants, il faut toujours voir l'origine de ce problème. À quel moment a-t-il commencé? Est-ce que c'est rattaché à l'adjuré, donc au moral, à l'activité morale, ou au fait géré, à l'activité artistique? Oui, parce qu'on passe d'un domaine à l'autre. Et quand on passe d'un domaine à l'autre, on ne voit plus. On ne peut plus avoir des arguments propres. Tout travaille sur une réalité extérieure au travail. Puisque je travaille en vue d'une œuvre. Et mon travail est efficace en vue de la réalisation de cette œuvre. Donc le travail, c'est la réalisation d'une œuvre. Du moins, l'efficacité dans le travail, c'est la réalisation d'une œuvre. Je pourrais mesurer l'efficacité du travail en fonction du temps. que j'ai mis, de l'application que j'ai mis, donc de l'énergie que j'ai dépensée pour réaliser ce travail. Ce travail, j'ai mis tant d'heures. Et la vieille bretonne qui fait des dentelles, elle a dit, ça a duré tant de temps. Vous voyez la valeur de cette broderie. Et je vous affirme, pourtant j'ai une grande habitude, grande virtuosité, je vais très vite. Et bien ça a duré tant d'heures. Et donc le prix de l'heure, voilà, sans compter la matière. Et ça vaut tant. Oui, l'efficacité. L'efficacité mesurée par le temps. L'efficacité mesurée par la qualité du virtuose. Virtuose. Quelqu'un qui est très très habitué ou quelqu'un qui n'est pas habitué qui commence. Donc, l'efficacité dans le travail est quelque chose de complexe. C'est jamais simple. Il y a plusieurs facteurs. Et cette efficacité travaille une matière, donc la violente. Est-ce que je violente le bois? Quand du bois, je fais une statue. Pourquoi n'êtes-vous pas scandalisé quand du bois, on fait une statue? Alors que vous pouvez être scandalisé quand vous voyez certaines violences. Est-ce qu'on violente les animaux quand vous faites fabrication de foie gras et que tout est en vue de ce foie gras? Ces pauvres bêtes vivent pour le foie gras. Vous êtes scandalisé devant ça si vous avez un tout petit peu le sens de la protection des animaux. Quand vous voyez que les poules sont faites pour uniquement pour le plus possible, alors on les immobilise, pauvres petites, on les immobilise pour qu'elles soient uniquement pour la pompe. Invraisemblable. Dieu n'a pas créé des animaux comme ça. C'est l'homme qui fait ça. Est-ce que c'est violenter la nature ou pas? Est-ce que la procréation artificielle est une violence par rapport à la nature? Même pour le cheptel. Il faut quand même se poser ces questions. J'ai pas le droit de pas les poser. Philosophiquement. J'ai pas le droit. C'est des phénomènes de notre temps. Et nous devons nous poser la question. Même si c'est très difficile, même si on n'arrive pas à poser la question, à du moins à la résoudre, on doit se la poser. Le philosophe doit être lucide là-dessus. Alors, autant que possible, interroger des gens compétents. Pendant 10 ans, j'ai interrogé un Vacher, que j'aimais beaucoup, qui est poète, en plus de ça. Un type merveilleux. Il est homme là, maintenant. Oui, ça l'a conduit à être homme là. C'est bien. Et on réfléchissait là-dessus. Et j'aimais bien d'avoir quelqu'un qui est dans la technique et qui pouvait vous donner tous les détails de la technique. Vous essayez de comprendre. Est-ce que c'est violenter la nature ou pas la violenter? Autrement dit, le problème qui se pose au point de vue philosophique, quand je travaille manuellement, je coopère avec une matière. Je coopère. Quand je coopère, je ne violente pas. Mais quand j'exploite, je violente. Et c'est pas toujours commode, hein, de voir la différence entre violenter et coopérer. Je pense à un petit exemple là encore qui m'avait beaucoup frappé. D'un jeune, c'est déjà longtemps ça, c'est ce premier voyage sur la liberté transatlantique, qui revenait avec moi, on était donc 5 jours ensemble, il avait 22 ans, il était parti à 18 ans, en Amérique, espérant trouver quelque chose de mirobolant et revenant marxiste. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il revenait marxiste. Nettement, il avait un désir de parler à quelqu'un qui pourrait l'écouter, puis dialoguer. a dit, en Amérique, c'était son jugement, on exploite. Et c'est pour ça que je reviens marxiste. Là, j'ai essayé de lui expliquer que le marxisme ne guérirait pas ce point de vue-là.